Lisons la Bible ensemble. La première lecture que je vous propose pour ce matin se trouve dans le prophète Michée, au chapitre 4 de ce livre, et les versets 1 à 5. Prophète Michée. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront nombreuses et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre des peuples nombreux. Il sera l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront, chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Le deuxième texte, puisé dans la Bible, est dans le prologue de l'Évangile de Jean, donc chapitre 1, dont nous lirons les versets 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'ai choisi un cantique qui est très beau, que nous connaissons sans doute assez mal. Donc je vais demander à notre organiste Marie-Louise Giraud de bien vouloir le jouer in extenso, une des premières strophes. Et nous chanterons donc du cantique numéro 285 dans le livret bleu Louange et prière, et dont nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4, « Ô Fils de Dieu, mon Sauveur bien-aimé ». Nous l'écoutons une première fois avant de nous lever pour le chanter. C'était une prière un peu laborieuse au niveau de la mélodie. Nous avons fait ce que nous pouvions. Nous prions dans le prolongement de cette prière. Toi qui, par ta présence spirituelle, nous précèdes en ce lieu, toi qui connais les pensées des humains et qui sais lire nos quêtes, nos questions, nos refus, et qui nous accueille tels que nous sommes. Nous voulons, pendant ce temps encore de culte, mettre devant toi tout simplement nos vies, nos pensées, en te demandant de les purifier par le souffle léger de l'Esprit. Chers amis, grands et petits, frères et sœurs, le prophète dont nous venons de lire quelques versets de promesses, de restauration, des promesses qui suivent des menaces annoncées, de la réalité du monde, on se trouve à peu près au 8e siècle avant le Christ, ce prophète porte le nom de Michée. Un nom qui est le même que celui de Michaël et qui pourrait se traduire par « qui est comme Jéhovah, qui est comme Yahvé, qui est comme Dieu ». C'est-à-dire le porte-parole véritable. C'est un prophète qui a exercé son ministère sous plusieurs rois, dont certains avaient proposé des réformes. Cependant, au moment où il écrit, où il résume un peu sa carrière de prophète, il y a un constat dramatique. La situation du pays prouve précisément que la réforme n'avait pas produit les fruits attendus. Il y a de l'idolâtrie. L'idolâtrie, vous savez, c'est cette manière de diriger sa vie en regardant partout ailleurs vers d'autres dieux dans le langage biblique que vers l'Éternel. Et puis, en parallèle, il y a l'injustice des grands de ce monde-là. Et Michée s'adresse aux gens riches de la capitale, Jérusalem, et il leur montre, il leur donne à voir en tous les cas les progrès de la corruption, les progrès de l'impiété. Au-dedans, tout semble perdu, et il voit comme prophète vraiment la nécessité d'un jugement, et le jugement, selon la Bible, a toujours une volonté purificatrice, on va dire. Il faut qu'il y ait un jugement pour que les choses changent. Et ce qu'il voit au dehors des royaumes dans lesquels il est prophète, ce qu'il voit au dehors, c'est l'extension croissante des puissances environnantes, notamment la Syrie, une grande capitale, Ninive, qui rêve, elle, d'une monarchie universelle, car elle est à l'apogée de sa force. En relisant ce texte, je vous dis à peu près du 8e siècle avant le Christ, je me disais que ces menaces sont un peu les nôtres aujourd'hui. Et quand il y a des puissances extérieures qui veulent nous dominer, elles entrent en conflit forcément avec le règne de Dieu. Et avec l'utopie du règne de Dieu, présenté comme un âge d'or sur la terre. On n'apprendra plus la guerre, et chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier. Au fond, nous pouvons mettre sous cette présentation poétique et bucolique la vie en paix et en harmonie. Précédant ces quelques visions de l'utopie d'un changement, d'une réforme, il y avait, je vous l'ai dit, quelques menaces faites. Elles portent sur la chute de Samarie, royaume du Nord, qui va avoir lieu, et puis il y a des menaces sur Jérusalem, le royaume de Juda, qui est menacé. Parce que même à l'intérieur, dans toutes les villes, règne l'avidité et l'injustice, c'est cela qui domine. Mais ce que j'aime bien chez Michée, c'est que notre prophète est calme. Il dit les choses. Il dit les choses, mais il sait aussi que les transformations ne se font jamais d'un seul coup. L'objectif du prophète et l'objectif prophétique en général est l'accès ou l'accessibilité à une proximité spirituelle renouvelée. Il entraîne par la parole à juger le présent tel qu'il est, mais aussi à avoir des vues sur l'avenir.
Selon Michée, oui, une nouvelle ère se produira, même si le temple menacé sera détruit. À propos du temple, lieu de la résidence divine, vous vous souvenez de cet épisode où les apôtres parlent à Jésus et après la prière ou avant d'y aller, avant le chant des psaumes, ils font remarquer à Jésus, comme nous pourrions le faire en levant les yeux ici, « Regarde ces pierres, regarde ces constructions. » Et la réponse de Jésus, sans en refuser l'appréciation esthétique, répond « Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Mais dans le texte que nous venons de lire, Michée proclame donc un relèvement. Michée, si je le retrouve dans ma Bible, Michée 5, versets 1 et 2, nous lisons ceci. C'est toujours dans Michée. « Et toi, Bethléem, Éphrata, toi qui es petite parmi les milliers de villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Il dit, Michée, que non seulement le Messie, le Christ, descendra de David, mais il ajoute qu'il sortira de Bethléem même, comme son ancêtre. La restauration de Jérusalem aura lieu après le jugement. Nous avons donc chez Michée des promesses messianiques, donnant toute sa force au récit que nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Il y a un contemporain de Michée que nous connaissons peut-être mieux, qui est le prophète Ésaïe, et nous lisons aussi « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Nous avons vu que Michée voulait dire comme Dieu. Emmanuel, vous le savez aussi déjà, peut se traduire par Dieu parmi nous. Michée, donc notre prophète, comme nous aujourd'hui, se trouve à vivre un moment décisif. Et il proclame, et comme nous avons envie de le faire chaque jour, qu'il y aura un relèvement, qu'il y a un relèvement au milieu des détresses ou des inquiétudes. Il affirme donc que le Christ, le Messie, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le Christ, le Messie, c'est l'envoyé du Père, sera non seulement un descendant de David, qu'il sortira de cette ville particulière, et il proclame une restauration de la cité de Dieu, de Jérusalem après le jugement. Ces textes que nous allons chercher avec délectation chez Michée ou Ésaïe pendant le temps de Noël sont des promesses messianiques qui forment au fond l'ancrage du Nouveau Testament. Il y a eu un jugement. Il y a eu la prédication de Jésus, une prédication en acte. Il y a eu une restauration. Il y a eu la proclamation magistrale d'une ère nouvelle. Au fond, l'Évangile a été jeté sur la terre comme une preuve irréfragable de l'amour de Dieu pour le monde. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Lentement, l'Église est née. Le christianisme s'est répandu avec ses grandeurs et ses décadences. Quelque chose est resté. La nuée des témoins, parfois très minoritaires, elle s'est maintenue. L'Église, à éprouver par moments le besoin de se restaurer, d'être restauré, de se réformer, d'être réformé. Et pour nous, évidemment, cela fait référence à la grande période du retour à la Bible, du temps de la réformation. L'Église d'où nous venons, oui, et alors ? Comme au temps de Michée, nous voyons bien que la réformation n'a pas produit tous les fruits escomptés. Alors je pourrais vous transmettre mon inquiétude et nous pourrions nous laisser gagner par l'amertume ou le désir d'abandonner notre espérance, voire de mépriser l'Évangile. Mais je me souviens toujours que Michée, il savait, lui, que les choses évoluent lentement. Mais il atteste aussi, dans son message, que les menaces environnantes sont bien réelles. Aujourd'hui, la pression des religions en expansion nous rend, il faut bien le reconnaître, la vie difficile. Nos bonnes intentions et notre tolérance ne semblent pas toujours payer de retour. Nous piétinons parfois et nous refoulons les croyances dans le domaine du privé. Nous prétendons être des défenseurs de la laïcité en dissimulant les signes ostentatoires de nos croyances. Et en contrepartie, les militants chrétiens qui ont le courage de parler de la foi qui les anime, même nous, nous les considérons comme illuminés ou commandités par l'Amérique ou comme sectaires ou comme provocateurs. Vous avez compris, c'est facile, que j'évoque aussi notamment ce qui se passe en Algérie. Certes, je sais aussi, et il y aurait beaucoup à dire sur certains agissements. Parler de l'amour de Dieu par le Christ nécessite, et je le sais, et je vous le redis, du tact et du respect. Mais ça, c'est une question de méthode et peut-être de culture. En concédant à autrui une appartenance religieuse reçue par la terre ou le sang, en concédant cela, nous sommes complices des religieux de tous les temps. Et je fais référence aux récentes déclarations de Christian Delorme dans un des journaux nationaux. L'Évangile, frères et sœurs, c'est résolument autre chose. L'Évangile, c'est un temple immense, mais un temple immense détruit une fois pour toutes et reconstruit en 3 jours, une fois pour toutes, par le Christ ressuscité et vainqueur. Oui, le jugement a eu lieu. Les puissances du monde ont été crucifiées à Golgotha. La mort a été vaincue. Et pourtant, relisons le prologue de Jean en nous arrêtant sur cet étonnant verset. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçu. La parole, le Logos, le Christ, est venu. Cela veut dire, frères et sœurs, que Dieu s'est incarné. Sa toute puissance, il l'a laissée ailleurs, afin de porter, avec les humains que nous sommes, tout ce qui fait leur vie, leur projet, leur attente, leur qualité et leurs défauts, qui apparaissent si souvent comme incurables. C'est dans cette réalité qu'il a jeté son Fils, dont l'incomparable reflet est ancré totalement dans la parole divine. L'évangéliste Jean lorsqu'il proclame le témoignage de Jésus, prince des prophètes? Pourquoi alors? Pourquoi ajoute-t-il cette phrase d'un réalisme effrayant? Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Est-ce pour parler des pharisiens du temps de Jésus ou les juifs en général? Est-ce pour évoquer les difficultés de la lente diffusion du message de l'Évangile? Est-ce que cette situation, ce verset de constat déplorable de l'évangéliste est définitivement dépassé? Et le monde, dans son ensemble, a-t-il reçu fondamentalement ce message? Et si le monde se rétrécit jusqu'à nous, je veux dire en notre fort intérieur, avons-nous reçu celui dont on nous dit qu'il est venu parmi les siens? Chaque existence est tout un monde en soi. Chaque adolescente, et je pense à Iris spécialement aujourd'hui, chaque adolescente qui s'éveille à la foi est confrontée à cette proclamation et à son pendant qui est une réponse humble et sereine, comme celle de Thomas devant la présentation physique du crucifié ressuscité qui lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ou encore plus avant dans l'Évangile, face à Jésus, un homme qui lui disait « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Chaque existence est un monde en soi. Chaque individualité a sa conséquence aussi pour la vie du monde entier. On raconte que dans une classe, dans une école, à la campagne, juste avant de commencer un exercice de dissertation, de manière tout à fait fortuite, et j'en conviens incongrue, un âne a fait irruption dans la salle où les élèves étaient rassemblés. Cela, comme vous l'imaginez, a entraîné un certain émoi. On se décide à faire sortir l'animal. Et le professeur, alors, change son programme et demande à ses élèves de rédiger leur composition française en relatant l'intrusion de l'âne dans la classe. Jusqu'ici, tout va bien. Chacun rédige. Et un élève reste imperturbable, laissant sa page blanche. Le moment vient de ramasser les copies. Cet élève soudain griffonne une phrase, celle du prologue de Jean. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçu. L'histoire ne nous dit pas quelle fut la note obtenue. Parce que par cet exemple, vous l'aurez compris, je voudrais vous conduire ailleurs. Parce que sa volonté de faire un bon mot en utilisant l'âne, symbole injuste de l'ignorance dont les élèves autrefois se faisaient un bonnet lorsqu'ils étaient incapables de réciter leurs leçons, évoque pour moi bien autre chose. L'âne ou l'ânesse évoque d'abord la monture royale du roi humble et débonnaire que fut Jésus. Mais elle symbolise aussi ce qu'il nous appartient d'être, c'est-à-dire non pas des personnes qui récitent des leçons imposées ou qui annoncent, pour le coup, des croyances d'un autre âge. mais des ânes, parfois intrusifs, qui proclament l'incroyable grâce de Dieu, qui fait de nous des partenaires de sa vie. Être âne de cette façon, c'est, chers amis, être porteur du Christ, c'est-à-dire porteur d'une nouvelle capable de réformer le monde entier. C'est précisément là que je crois que nous serons des chrétiens véritables, par la grâce de Dieu. C'est alors que nous resterons des membres de cette Église du Christ qui est comment ? Elle est ouverte, elle est accueillante, elle accepte la confrontation avec les réalités du monde, une Église ainsi faite parce que toujours prête à se réformer. Et c'est alors encore, et même après 28 siècles, si nous partons de la date du prophète Michée, que ce fil rouge de la présence de Dieu dans le monde peut exercer son dynamisme dans nos vies et que sera nôtre la prophétie de Michée, tandis que tous les peuples marchent, chacun, on ne sait pas trop, au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Que vous dire, sinon d'être des ânes généreux ? Nous exerçons dans l'Église beaucoup de solidarité. Nous aidons par tous les moyens possibles ceux qui en ont besoin. Nous sommes parfois beaucoup moins généreux à partager notre héritage spirituel. Pourtant, frères et sœurs et chers amis, c'est aussi une solidarité que de témoigner de la foi lorsqu'elle nous rend libres et heureux. Alors oui, je peux sans crainte vous dire, soyons des ânes généreux, porteurs humbles et sincères de l'Évangile de paix. Il en va de la vie du monde. Amen.